ne faut en aucun cas laisser les gouvernements écrire seuls l'histoire.
Louis Liac, la Catalogne à haute voix.
Les maires qui se sont engagés à participer à l'organisation du scrutin se retrouvent dans le viseur de la justice. Le parquet a ouvert une enquête contre 700 élus indépendantistes. S'ils ne répondent pas à la convocation, la police ira les chercher.
Je vais ignorer cet ordre. Ce n'est qu'un élément de plus parmi les obstacles que prépare l'État espagnol pour empêcher le droit à l'autodétermination du peuple catalan. Nous allons donc pratiquer la désobéissance active face à toute convocation en provenance des tribunaux espagnols.
En Catalogne, peu de jours avant le référendum du 1er octobre, nous avons d'un côté les partisans, de plus en plus résolus, de l'indépendance, qui tiennent à Barcelone le gouvernement, la Generalitat, et le Parlement, Votarem. Nous voterons ce 1er octobre. Et de l'autre, le gouvernement Rajoy, à Madrid, il n'a jamais su proposer de vision pour faire évoluer le statut des régions et des autonomies, et aujourd'hui il campe sur sa position. Quiconque prête la main aux préparatifs du référendum entre dans l'illégalité. Les imprimeurs, les policiers, les fonctionnaires, les maires doivent choisir à quelle voie obéir, la catalane ou l'espagnole. Certains tentent bien de rester en retrait, comme la maire de Barcelone, pour préparer un terrain de médiation, et Louis Liac leur dit « C'est l'heure des choix, ce n'est pas une heure pour les lâches ». Louis Liac a été très connu en France à partir de son exil à Paris. On lui savait gré ici d'admirer Brel et Ferré. Mais en Catalogne, c'est plus qu'un interprète, c'est plus que l'interprète numéro un. Il connaît un succès durable depuis 50 ans avec à son zénith le rassemblement en 1985 de 120 000 personnes dans le plus grand stade de Barcelone. Il fédérait alors un catalanisme qui a toujours présenté des facettes très diverses. Il y avait la bourgeoisie libérale qui jugeait que Madrid entravait sa capacité d'initiative. Il y avait le clergé qui défendait le particularisme culturel comme un levier. Il y avait aussi la tradition anarcho-syndicaliste dont le rôle fut très important dans les années 30 et à laquelle Louis Liac se réfère souvent et on l'entend à ce sujet de plus en plus nettement. Aux élections de 2015, il a été élu dans sa ville natale de Gérone. Il s'est présenté sous le label indépendant, mais indépendant, tête de la liste indépendantiste. Voici le temps de son dernier combat.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
J'avais fini comme chanteur, ma carrière de chanteur, avec la prétention de faire ma vieillesse dans la calme, dans... J'ai parti en Afrique, j'ai fait des petits travaux à travers une fondation, et j'ai écrit 3 livres, et tout d'un coup, a explosé toute la situation catalane, que ça a été pas une explosion, parce qu'en réalité c'était une évolution, mais finalement, je me suis engagé dans des élections de l'année 2015. Et toute l'idée que j'avais de qu'est-ce que devait être ma vie, c'est un échec total. Un échec total.
Nous entendrons dans la deuxième partie de l'émission la suite de l'entretien que vient de nous accorder Louis Liac depuis son bureau du Parlement catalan. Mais pour mesurer et la singularité de son parcours et la portée de sa voix, nous allons d'abord avoir recours aux conversations qu'il eut naguère à Radio France. Et puis, nous entendrons quelques-uns de ses titres. Louis Liac a débuté en 1967, il n'a chanté qu'en catalan. La première fois qu'il se produit hors de Catalogne, en 1968, il craint que les Espagnols qui viennent le voir ne le crucifient. Mais il observe qu'au contraire, il les émeut dans sa langue. Le crépuscule du franquisme, il est vrai, s'annonce. Dans Campañedes a Morts, il va évoquer plus tard les derniers morts de la dictature. Les enfants qui sont venus au jour un peu trop tôt et qui ont été exécutés les derniers. On se souvient que le régime usait du garrot. Les Campañedes, ce sont les hommes à qui le bourreau passe des cagoules. Ils sont comme des cloches noires qui sonnent le glas.
Campanadas a morts, per les tres boques closes. Ai, d'aquell trobador que oblidés les tres notes que ha tallat tot l'alè d'aquests cossos tan joves sense cap més tresor que la raó dels que ploren.
Avant l'ultime spasme, les dernières années de la dictature, avec leurs entr'ouvertures, leurs fermetures, sont très longues. Il faut jouer avec la censure. Entretien après coup, souvenir de Louis Sliac avec Sylvie Nicolet, c'était sur France Bleu.
Vous avez été interpellé une fois pour raison en fait d'une loi qui interdisait aux chanteurs de parler entre les chansons.
Oui,
c'est
non,
ça
je suis allé au commissariat plusieurs fois pour des raisons incroyables. Aujourd'hui, quand je raconte là-bas aux jeunes, ils ne croient pas. À Grenade, une fois, j'étais interdit l'année 75, juste venu de mourir Franco, mais il y avait tous les systèmes. J'étais interdit pour perversion sexuelle.
Perversion sexuelle.
Moi, franchement, je suis totalement habillé sur scène, je ne fais pas du tout rien de... Une autre fois...
Enfin, il faut qu'ils expliquent quand même ça.
Ah,
non, pas du tout. C'est-à-dire,
pas du tout, une dictature, il n'a aucun besoin de s'exprimer.
Non, parce qu'il pourrait mentir, mais au moins en disant quelque chose, parce que perversion sexuelle, ça ne veut rien dire si on ne donne pas
les
détails.
Oui, ça sert seulement à t'interdire un jour. Ouais. Et bon. Ouais. Une autre fois, à Barcelone, dans un palais de la musique très important, ils m'ont interdit parce qu'avec les regards, j'ai soulevé le public.
Avec le regard.
D'accord.
Vous pouvez me faire ça?
Non, mais impossible. C'était dans l'imagination perverse de...
Ils étaient aussi stupides que ça, ces gens-là.
Écoute, vraiment, la dictature, elle est très stupide. Pas seulement dans les profondeurs, sino dans la superficie. Beaucoup, beaucoup. On trouvait d'anecdotes merveilleuses sur ces sujets-là. Moi, j'ai passé une chanson à la censure une fois que ça devait dire l'impuissance de la peur. Bon. Et elle ne passait pas. Mmh. Parce que les mots peur en Espagne, ça n'existait pas.
Ah.
Bon. Alors, comme titre, surtout, si tu la disais dans une chanson mélangée avec des autres, ça. Mais si tu disais peur dans un titre, c'est pas possible. Bon. Alors, j'avais, malgré mon agnosticisme, j'avais un ami curé qui m'a dit, écoute, pourquoi tu le mets pas en latin? Il dit, comme ça sonne
c'est
en latin.
C'est pas idiot, ça, oui.
Il dit, debilitas formidinis. Debilitas formidinis, ça sonne bien. Et elle a passé, j'ai une chanson qui s'appelle Debilitas formidinis, qui a une grande joie de chanter grâce à un curé.
Les franquistes ne savaient pas le latin.
Les dictateurs, normalement, ne savent pas trop des choses.
Quan els mots només són l'impotència dels mots, tot sovint fem cançons que ens deslliuren un poc, però a la fi retornem amb el darrer acord. Quan el cos només és l'impotència del cos, tot sovint amb l'amor donem tants de tresors, però a la fi retornem amb l'últim petó.
Debilitas formidinis, du latin au catalan, du catalan à une vague traduction française. Je vous préviens, il y a une certaine déperdition d'énergie sexuelle. Disons qu'il s'agit du corps, de ses trésors, des baisers. Le langage du corps, il pourra le parler plus facilement, Louis Sliac, notamment avec les garçons, quand il sera à Paris, parce que le filet de la dictature s'est resserré et que, poursuivi par la police, il a passé les Pyrénées, commence donc plusieurs années d'exil. Enfin, il trouve le mot excessif, il n'aime pas l'emphase, il préfère parler de nomadisme, voire de vacances. Et la base numéro un, c'est Paris avec ses théâtres.
Oui, j'ai lu que tu étais assez heureux d'être passé dans des salles comme l'Olympia, mais que tu avais la dent un peu dure aussi sur des petites salles gauchistes qui revendiquaient leur côté culture,
oui,
et qui t'ouvraient peut-être pas facilement leurs portes.
Oui, oui, c'était une très belle expérience pour nous, parce qu'en plus, a été une belle leçon. On allait à Paris, on était interdit en Espagne, alors on devait chanter ici pour survivre un peu. On cherchait la façon de pouvoir chanter à Paris dans des salles, et on allait dans les salles réputées comme de gauche. Mmh. Je dirais pas les noms, mais rien de ça. Et c'était toujours des portes fermées. Et par contre, on est allé à l'Olympia et ils ont été spécialement aimables professionnellement, mais ils ont vraiment pas du tout fait payer la salle. Des conditions fantastiques.
Jean-Michel Boris.
Voilà, monsieur Boris.
Qui aime les artistes.
Oui, oui, oui. Ouais. C'est quelques personnes très tendres, je trouve. Et quand on se voit, il sait pas à quel point, quand je le vois, je dis voilà, c'est ce monsieur-là, il a ouvert une fenêtre dans les moments où c'était tout très, très sombre.
Ce premier Olympia qu'évoque Louis Sliac chez Monsieur Foulquier, c'est 1973, avec une chanson notamment, l'Estaca, le pieu. Elle a été interdite de l'autre côté des Pyrénées. Elle a fait son chemin toute seule et elle va devenir l'emblème de la Catalogne. La Catalogne attachée à un pieu et qui va retrouver la liberté. La mélodie, elle est très simple, elle est de celle que chacun retient. Et les paroles, le chanteur se tient près de son grand-père. « Sichette, ne vois-tu pas le pieu où nous sommes tous attachés? Si nous ne pouvons nous en défaire, jamais nous ne pourrons nous échapper. »
Cette chanson s'appelle « L'Estaca, le pieu ». La vie s'est en parlava de bon matí al portal, mentre el sol esperava i els carros veien passar. Siset, que no veus l'estaca on estem tots lligats, si no podem desfensar mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba ben corcada, deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar.
Si nous tirons tous le pieu tombera, si tu le tires fort par ici et que je le tire fort par là, c'est sûr, il tombera, il tombera. Franco meurt en 1975. De suite, Louis Sliac est de retour. En janvier 76, il donne 3 soirées au Palais des Sports de Barcelone, mémorables. À l'entracte, la police manque de charger les spectateurs, puis elle se retient. Son succès ensuite va aller grandissant. À l'époque, il évite d'utiliser le mot « peuple » pour désigner les Catalans. Il parle de communauté, de minorité, d'un petit pays qui n'en est pas un. Toujours le souci de ne pas tomber dans l'emphase, mais pourtant, en 1985, au grand stade de Barcelone, ils sont 120 000 personnes qui reprennent avec lui l'Estaca.
Lui, c'est le plus grand chanteur que nous avons. Alors, mais c'est un chanteur qu'il y a un politique quand même, mais qu'il croit beaucoup ce qu'il chante. Et Alors, il peut faire ses récitals ici dans ce stade, parce que tous les gens qui viennent ici, ils connaissent très bien ce que lui chante, ce que lui dit, ce que lui, c'est pas lui. Et alors, pour moi, c'est une preuve contre le gouvernement en général d'ici, de l'Espagne, de l'État, de le reste de l'État, de démontrer qu'il y a une chanson, qu'il y a une langue, qu'il y a un pays et tout ça. C'est une idée. C'est une idée politique différente.
Ce grand soir de 1985, les spectateurs du stade du Barça ont eu l'impression de s'être libérés. Luis Slack, lui, a l'habitude de se tenir sur la scène, mais en retrait d'observer le personnage public qu'il est devenu, mais dont il connaît les médiocrités et les contradictions. Je le cite. Dès cette époque, il aurait pu être élu 10 fois, mais il ne veut pas entrer en politique en 1992. Pollen, France Inter.
Ça ne t'a jamais tenté.
Non, pas du tout. Pas du tout, parce que j'ai vu, en plus, dans des gens que j'aime beaucoup, parce que, comme vous pouvez imaginer, j'étais ami, parfois intime, des gens que maintenant, ils sont dans le pouvoir. Et j'ai vu le massacre intérieur que le pouvoir provoque dans les gens qui s'approchent à lui.
Oui, il n'y a pas qu'en Espagne.
Non, ça, c'est une maladie. Hein. Et voilà que mon petit privilège de petit chanteur comme ça, je veux les garder comme ça.
La cinquantaine venue, il commence à parler d'arrêter la chanson. En réalité, il renouvelle sa manière. Une année, il interprète le Requiem de Fauré avec l'Orchestre de Lille. Une autre, il s'immerge dans la musique électronique. Il travaille à tout cela dans un village du sud de la Catalogne, au plus près de son lieu d'enfance. Mon village est si petit qu'à son coucher, le soleil n'est pas sûr de l'avoir vu. C'est ainsi qu'il me plaît, mon petit pays.
El meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist. Diuen les velles sàvies que és per això que torna. Potser sí que exageren, tant se val, és així com m'agrada a mi. Sabria dir res més. Canto i sempre em sabré malalt d'amor pel meu país.
Mon pays, mon village, c'est un bel endroit où observer ma décadence, dit Luis Slack, qui ne présente plus trace de l'abondante chevelure qui avait fait sa marque dans les années 70. L'Afrique aussi, c'est un bel endroit où se rendre un peu utile, il y a créé une fondation. Mais le dégoût qu'éprouve le vieil Anar vient à bout de sa discrétion quand il évoque l'État espagnol. Voici l'entretien que nous venons d'avoir avec lui. Pas d'emphase, il ne parle pas d'une Espagne démocratique et il dit que de toute façon, elle n'a pas tenu ses promesses.
Et moi, je n'étais pas indépendantiste, pas du tout. Pas du tout. Et moi, j'avais l'espoir d'un projet de futur espagnol où les différents peuples qui composent l'Espagne pourraient vivre dans la sécurité, ses moyens, etc. Bon, écoutez, enfin, ça s'est gâché, je crois, que dans les années 80 quelques. En réalité, ça s'est gâché très tôt. ça que c'est difficile pour une personne qui tentait d'être de gauche comme moi, c'est que cet gâchement, si on dit comme ça en français, ça venait pour les partis socialistes, pour la gauche. Monsieur Felipe González, qui était très admiré dans toute l'Europe, il a gâché totalement son métier politique. Ils ont laissé la justice franquiste en place. Ils ont laissé toutes les structures policières en place. En réalité, ils ont laissé des tortureurs et d'assassins en place. J'imagine que vous connaissez l'histoire. Le Parti socialiste, il a tombé dans le népotisme, terrorisme d'État, contrôlé pour les gouvernements. J'ai compris que ça qu'on appelle transition espagnole allait à rater.
Enfin, à dire le vrai, la corruption a aussi touché la Generalitat de Catalogne, au temps où elle était administrée par le tout-puissant Jordi Pujol. Pendant la longue présidence de celui-ci, 1982-2003, le mot d'ordre était seulement à l'autonomisme. Le courant modéré qu'il incarnait s'est amoindri sous le coup des accusations de fraude fiscale et autres. Et il a dû s'agréger à une coalition indépendantiste, un peu faite de briques et de brocs, ce qui laisse bien des questions ouvertes. Alors, si on parle, Luis Liach, de la future transition, ne craignez-vous pas que la coalition pour le oui au référendum ne soit pas trop hétéroclite, parce que vous n'êtes pas d'accord les uns et les autres sur le projet économique, sur le projet social, sur le projet européen?
Mais en réalité, c'est notre richesse, ça. Parce que vous devez voir à quel point la réponse contre l'État est si forte qui a rassemblé des gens qui sont d'une transversalité totale. Que nous sommes très différents. Ça, c'est notre patrimoine. C'est pour ça que nous osons nous présenter dans un référendum. Parce que ce n'est pas une question de parti politique, d'un parti ou de l'autre. En plus, ce n'est pas en réalité de tous ces mouvements qu'il y a en Catalogne, il y a une chose qu'il faut vraiment mettre à part. N'a été jamais un mouvement pensé dans les bureaux politiques. C'est le contraire. Dans la rue, a sorti un mouvement politique qui a changé tous les partis politiques de la Catalogne, a bouleversé tous les partis politiques de la Catalogne. Je veux dire avec ça que, regardez, nous sommes majorité absolue dans les parlements de la Catalogne, des gens très différents, mais...
Mais qu'est-ce que vous appelez la majorité absolue? Et qu'est-ce que vous appelez la majorité sociale?
J'ai parlé de majorité absolue au Parlement. Je ne disais pas la majorité sociale parce que précisément nous voulons un référendum pour savoir dans quel état de majorité nous sommes. C'est ça qu'on demande à l'État espagnol. On a un problème politique. Écoutez, il fait 6-7 ans que chaque année, 1 million quelques personnes sortent à la rue pour demander des objectifs politiques. Et on n'a jamais aucune réponse de l'État espagnol, en dehors de la répression judiciaire. Aucune réponse. Et on tente de dire, on va faire un référendum pour savoir s'il y a une majorité sociale forte.
Mais vous mettez, Luis Liach, les fonctionnaires de Catalogne dans une contradiction terrible. S'ils obéissent à vos consignes, ils vont répondre de leurs actes devant l'État espagnol. Et d'ailleurs, vous les menacez. Si vous ne suivez pas nos consignes, vous répondrez devant l'État catalan.
On a tenté jusqu'au moment de ne mettre en danger aucun fonctionnaire. Aucun fonctionnaire. Mais il y aura un jour de contradiction de légalité où les fonctionnaires devront décider quelle loi oblige. Mais ça, c'est clair. Et je ne peux rien dire. De la même façon, c'est les citoyens aussi devront décider si je paye les impôts à Catalogne, et tu payes les impôts à l'Espagne. Ça, c'est une, disons-nous que ça a fait un scandale, parce que je disais que les fonctionnaires catalans, ils doivent suivre les lois catalanes. Et que ça va mener des contradictions. C'est vrai qu'il va mener des contradictions. Mais pour le moment, ce qu'ils tentent de faire les parlements et le gouvernement catalan, c'est de mettre jamais en danger les fonctionnaires dans une situation difficile. Mais moi, je suis député d'un parlement qu'après 30-40 ans, toutes les lois qu'il produit, disons-nous, sont obligatoires. Mais moi, je considère que jamais j'ai menacé les fonctionnaires. Ça va pas avec ni mon caractère, ni mon vocabulaire, ni rien de tout ça. J'ai dit seulement que les lois catalanes du Parlement catalan obligent et aux citoyens et aux fonctionnaires, et chacun devra se responsabiliser
Dernière question, Louis Slack. À plusieurs reprises, vous dites « Je ne sais pas si on comprendra notre cause et nos raisons ». Vous savez bien que si l'indépendance était proclamée, la plupart des pays européens ne la reconnaîtraient pas, à commencer par la France.
Écoutez, bon, ça, on va discuter ça à partir du 2 octobre. Non ? Mais si on a un mandat démocratique, c'est difficile pour l'Europe, hein. Renoncer à reconnaître l'existence d'une volonté populaire. C'est très difficile, j'y pense.
Ultime question, puis je vous libère, Louis Slack. Autrefois, vous disiez « Je ne ferai pas de politique, j'ai assez vu les dégâts que la politique fait dans les esprits quand ils s'approchent du pouvoir. »
Oui. Oui, oui, je le maintiens, hein. J'ai dit toujours que je suis en politique transitoire et qu'une fois on a fait le référendum et on a tenté de gagner notre indépendance, j'ai disparu totalement. Je ne me sens pas à l'aise dans ces rôles-là. Mais moi, je pensais que je pouvais être utile dans ce processus. Je m'en fais, et voilà. Mais je ne suis pas heureux. C'est pas la vie que j'ai rêvée pour moi-même, pas du tout. Et quand ça va finir, je vais partir tout de suite.
Cette émission sur et avec Louis Slack a été préparée par Franck Olivard, le plus séparatiste de nous. La réalisation Audrey Ripouille avec deux L. Et à la technique, Julien Dumont, dont le nom n'a rien de suspect. Et Mathieu Vidard, quel est votre programme?
Il est chargé, les 150 ans de l'hôpital Sainte-Anne, le sommeil des animaux et puis un roman autour de la fonte des glaces.
Fort bien, dans un instant, cher Mathieu.
À tout à l'heure.